en habit vert. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Élodie Courtejoie.
Bonjour, pour cette nouvelle émission en habit vert, je reçois l'immunologiste Philippe Kourilski, membre de l'Académie des sciences, professeur au Collège de France, directeur honoraire de l'Institut Pasteur. Philippe Kourilski, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation au studio de Canal Académie. Au cours de cette émission qui vous est consacrée, nous parlerons de vos débuts dans la recherche, de votre longue carrière à l'Institut Pasteur de 1978 à 2005. Nous accorderons une large place à l'altruisme et à l'éthique, car vous êtes un scientifique altruiste, Philippe Kourilski, et vous invitez tous ceux qui peuvent vous lire dans votre dernier essai, Le temps de l'altruisme, paru chez Odile Jacob, vous les invitez à vous suivre, un essai d'ailleurs préfacé par le prix Nobel d'économie Amartya Sen. Et puis nous parlerons également dans cette émission du principe de précaution, puisque suite à la grippe A et aux procédures qui paraissent pour certains démesurées, se pose la question de l'utilité de garde-fous. Comme vous avez rendu en 1999 un rapport au Premier ministre sur ce fameux principe de précaution, et cela avant son inscription dans la Charte de l'environnement de 2004, vous nous direz le fond de votre pensée sur ce sujet. Mais commençons, si vous le voulez bien, par votre parcours. Parcours brillant, ancien élève de l'École polytechnique, vous enchaînez par un doctorat S-Sciences, et là, vous faites une rencontre importante, celle de François Gros. François Gros, immunologiste, qui est votre confrère, puisque François Gros appartient également à l'Académie des sciences. Comment s'est passée cette rencontre, Philippe Kourilski ?
En sortant de l'École polytechnique, avec l'idée de faire de la biologie, j'avais été voir Jacques Monod. Et Jacques Monod m'avait dit qu'il n'avait pas de place dans son laboratoire et qu'il me recommandait vivement d'aller voir François Gros, ce que je fis. Et cela fut une rencontre immédiate, je dirais, une sorte de complicité intellectuelle qui s'est nouée immédiatement, évidemment totalement asymétrique au début, puisque François était un grand biologiste reconnu et j'étais un débutant, un bisu. Mais voilà, et ça a été le début d'une relation donc très importante pour moi et qui se poursuit toujours, puisque je revois François Gros toujours avec énormément de bonheur.
Alors comment vous êtes-vous tourné petit à petit de la biologie vers l'immunologie ?
Eh bien, ce qui s'est produit, c'est qu'après une thèse de biologie sur ce qu'on appelle bactériophages, les virus des bactéries, est arrivée l'ère de ce qu'on appelait à l'époque, malencontreusement d'ailleurs, les manipulations génétiques, et le génie génétique, comme on dit aujourd'hui. Et donc, dans le laboratoire de François Gros, dans lequel j'étais revenu après mon post-doctorat en 1972, en fait, à l'Institut Pasteur, j'ai commencé avec, à la suite d'autres pasteuriens d'ailleurs, Alain Rombach et Pierre Thiollet, à bricoler, entre guillemets, génétiquement, ce qui a conduit à une grande première, qui était le premier clonage d'un ADN complémentaire avec François Roujon et Bernard Mac. Et après quoi, un travail très important et abondant qui a été fait avec Pierre Chambon sur l'analyse des gènes de l'ovalbumine. Alors ça peut vous paraître un peu technique, mais tout cela, on était dans les gènes modèles et ce fut une époque très passionnante. C'est l'époque d'ailleurs pendant laquelle Jacques Monod, directeur de l'Institut Pasteur à l'époque, créa ce qui fut appelé l'unité de génie génétique dans laquelle je me retrouvais avec un certain nombre d'autres collègues. Mais en tout cas, après cette période-là, je me suis demandé sur quel système travailler, puisqu'en fait, ces technologies de clonage des gènes étaient neuves. Nous étions peu dans le monde à les posséder. C'était le Far West, on pouvait tout faire, on pouvait attaquer n'importe quel problème. Et là, je dois dire que c'est mon frère François Kourilski, qui fut directeur du général du CNRS, mais qui était immunologiste à l'époque, qui m'a dit « mais tu devrais travailler sur le système d'histocompatibilité, le système HLA ». Et donc, moi, ce qui m'intéressait là-dedans, c'était pas du tout l'immunologie, c'était vraiment le fait que c'est un système de gènes très polymorphe, comme on dit, donc un système très variable génétiquement, et c'était ça qui m'intéressait. De fil en aiguille, je suis devenu immunologiste.
Tout simplement, l'explication est arrivée, voilà. Tout simplement. Donc, entre 1972, avec cette réussite du clonage du premier ADN
75,
complémentaire,
oui.
75, et puis donc 81, où vous commencez à travailler justement sur ces phénomènes d'histocompatibilité, et la possibilité, c'est cette découverte-là aussi, de pouvoir travailler sur ces maladies auto-immunes et certains cancers.
Oui, bien sûr, parce que l'importance du système HLA chez l'homme et H2 chez la souris, l'importance en immunologie est colossale. C'est un système complètement central. qui touche à la fois à la capacité de répondre à certains agents infectieux, mais également à la capacité de déclencher certaines réactions adverses, si vous voulez, au sein desquelles se trouvent bien sûr les réactions qui conduisent aux pathologies auto-immunes.
Et d'autres confrères travaillent ou ont travaillé sur ces systèmes-là, Jean Dosset par exemple, ou le professeur Edgardo Carosella?
Oui, Jean Dosset est évidemment le père fondateur du HLA. Oui, j'ai discuté avec Jean Dosset en son temps et j'ai eu l'honneur de faire son éloge au Collège de France.
À cette époque, vous êtes donc à l'Institut Pasteur, une période quand même assez longue entre 1972 et jusqu'à 2005, avec donc des fonctions diverses. Venons-en, si vous le voulez bien, à cette période où vous devenez directeur général. On avance un peu rapidement dans le temps, entre 2000 et 2005, période qui correspond parallèlement à plusieurs choses. Le SRAS, le syndrome respiratoire aigu sévère, qui a démarré en Chine en 2002, et puis, deux ans après, la grippe aviaire. Alors, autant dire que vous aviez du pain sur la planche à l'Institut Pasteur. Quels souvenirs gardez-vous en tant que directeur et quelles leçons en tirez-vous?
Écoutez, la direction de l'Institut Pasteur, c'est un autre métier. Bon, lorsqu'on vous convainc d'endosser cet habit de direction générale, malheureusement, on ne vous dit pas tout. On ne vous dit pas à quel point c'est prenant, technique. Il faut être capable de discuter avec les syndicats. C'est quand même un autre métier que la recherche. Maintenant, l'Institut Pasteur est une merveilleuse institution qui a une histoire et non seulement une dimension historique, mais une flèche de l'histoire. C'est vraiment une institution qui est ancrée dans un mélange, plus exactement l'harmonisation entre la science la plus fondamentale et les applications de la science, ce dont Louis Pasteur a montré l'exemple. L'Institut Pasteur est également un lieu dans lequel la science est donc mixée, si je peux dire, aux applications, et la biologie est également mélangée aux objectifs de santé publique. Donc pour en arriver à votre question, il est clair que des problèmes comme ceux des maladies émergentes, et notamment du SRAS et des différentes grippes qui sont arrivées au cours du temps, étaient immédiatement présentes. Et donc il fallait développer des systèmes de réponse, et c'est l'un des rôles de l'Institut Pasteur que d'être capable de faire ça. À l'époque, j'avais eu la grande chance d'avoir pu intéresser à ce sujet Jean-Paul Lévy, qui était devenu directeur médical de l'Institut Pasteur et qui a notamment organisé une cellule d'intervention d'urgence qui s'est avérée tout à fait utile et importante. Cette cellule d'intervention d'urgence, elle s'est développée dans le temps, mais elle a notamment donné lieu à des missions qui ont été faites par des pasteuriens, y compris en Chine, au moment de l'émergence de ces nouvelles maladies. Et je crois que ce n'est pas totalement étranger au fait que quelques années plus tard, nous avons été capables de créer un Institut Pasteur à Shanghai, ce qui est une sorte de jalon historique dans le réseau international des Instituts Pasteur. Ce réseau, jusqu'à présent, était essentiellement ancré sur les anciennes colonies, et donc il était francophone, en gros. Et puis, en quelques années, entre 2002 et 2005, avec beaucoup de collaborateurs, et bien sûr, nous l'avons mondialisé, avec la création d'un Institut Pasteur en Corée du Sud, pour commencer, un autre à Shanghai. Ensuite, un autre a été entrepris à Montevideo. Un grand réseau de collaboration a été établi en Amérique du Sud, avec une vingtaine, je crois, d'institutions de recherche fédérées dans des projets communs, dans un réseau qu'on a appelé AmSud Pasteur. Des instituts d'obédience pasteurienne, si vous voulez, comme l'Institut Armand Frappier au Québec, a souhaité se rattacher au réseau international. Et donc, le réseau international des instituts pasteurs a changé complètement de dimension. Et ça n'est pas étranger au phénomène dont nous parlons.
Donc, on a bien compris ce système de toile, de réseau qui s'est constitué. Mais vous, la gestion de la crise, comment s'est-elle faite? Est-ce que c'était difficile de gérer, par exemple, lors de la grippe aviaire? Est-ce que c'était difficile de gérer, de contenir les inquiétudes aussi du grand public, vous, en tant qu'Institut Pasteur?
En tant qu'Institut Pasteur, nous étions plutôt, et j'espère que nous le restons, nous étions un référent scientifique, si vous voulez. Et donc, ce que nous efforcions de faire était de délivrer de l'information qualifiée. Alors ensuite, par derrière, bien sûr, d'autres font de cette information ce qu'ils souhaitent et la réinterprètent éventuellement de différentes manières. Donc, le langage politique n'est pas forcément celui que nous tenions.
On marque une première pause, si vous le voulez bien, Philippe Kurilski. On se retrouve dans quelques instants pour parler de deux entreprises, la société Transgène et la deuxième société, Singapore Immunology Network. À tout de suite.
On connaît Alexandre Dumas sous les traits du génial écrivain. Notre auteur était aussi un incroyable gastronome. Découvrez, grâce à notre chroniqueur Jean Vito, Alexandre Dumas le cuisinier, l'hôte de table, l'inventeur de recettes comme le poulet à la ficelle, les pieds d'éléphant et la queue de kangourou. Le talent et l'imagination de Dumas à table, Une émission qui vous est servie sur le site de canalacademy.com en libre écoute et libre téléchargement.
Suite de notre émission en habit vert en compagnie de Philippe Kourilski, dans cette deuxième partie d'émission, nous allons parler d'une entreprise et puis d'un institut de recherche, et non pas d'une entreprise comme j'ai pu le dire avant la pause. L'entreprise en question date de 1981, c'est la société Transgène. Dans quel contexte naît cette société, Philippe Kourilski ?
Elle naît dans un double contexte, un contexte personnel. J'ai toujours été convaincu de l'importance non seulement de faire une belle recherche, et une belle recherche fondamentale, mais également de l'appliquer. Donc personnellement, j'ai toujours eu comme souci de faire les deux. Ce qui n'est pas toujours facile, puisque finalement, ça démultiplie les objectifs et les problèmes de la recherche en tant que telle. Mais c'est ce que j'ai toujours voulu faire. Et donc, je l'ai fait. Mon laboratoire a pris un certain nombre de brevets au cours du temps, dont certains d'ailleurs ont donné lieu à des vraies applications. En tout cas, l'émergence du génie génétique posait vraiment le problème des applications, puisqu'il était absolument évident que ces nouvelles technologies, par lesquelles notamment on pouvait produire des protéines humaines dans des fermenteurs bactériens, si vous voulez, il était évident que ces nouvelles technologies allaient avoir des applications très importantes, et on le voyait d'autant mieux qu'aux États-Unis, le mouvement d'application avait démarré puisque des entreprises comme Genentech avaient été créées avec du capital risque et qu'en France, en gros, il ne se passait rien ou pas grand-chose. Et il est bien vrai que nos industriels à l'époque étaient plutôt sceptiques et en fait, leur ardeur a été réveillée par une banque. Et c'est une banque qui a créé Transgène, donc c'est Paribas qui a créé Transgène, avec donc mon collègue et ami Pierre Chambon et moi-même comme sorte de fondateur scientifique. Nous avons recruté comme directeur scientifique de Transgène qui s'est installé à Strasbourg un ami et collègue Jean-Pierre Lecoq, qui est malheureusement mort dans le crash du Mont-Saint-Odile. Et il y a à l'Académie un prix Jean-Pierre Lecoq qui honore sa mémoire. C'est un type absolument formidable qui a développé scientifiquement Transgène de façon extraordinaire. Et donc, ça a été une grande aventure scientifique en même temps qu'une déclinaison, si vous voulez, des applications de la science.
Une des premières entreprises de biotechnologie en France qui avait pour objectif donc, de développer des produits d'immunothérapie pour le traitement des cancers.
Entre autres, mais ça a été, je crois, la première entreprise de biotechnologie en France et une des toutes premières biotech, comme on disait à l'époque.
C'est votre bébé, ça, Transgène, ou alors ensuite vous l'avez laissé grandir et évoluer dans sa vie adulte, seul ?
Écoutez, Pierre Chambon et moi avons accompagné Transgène jusqu'à l'âge adulte et ensuite Transgène a vécu sa vie. Transgène a rejoint le groupe Mérieux et donc opère aujourd'hui dans un contexte complètement différent de celui que nous avions créé au départ.
Vous êtes donc sorti du milieu de l'entreprise, on va dire. J'allais vous poser la question de savoir comment passe-t-on de chercheur à entrepreneur. Je ne sais pas si c'est du coup une très bonne question, mais je vous la pose quand même.
J'ai vécu un autre épisode, c'est qu'à la suite de la disparition de Jean-Pierre Lecoq, Jean-Pierre Lecoq venait de prendre en fait le poste de directeur des recherches de ce qui s'appelait à l'époque Pasteur Mérieux Conneaut et ce qui est devenu Sanofi Pasteur. Et sa disparition a conduit la Mérieux, en fait, à me demander d'occuper ce poste, ce que j'ai fait pendant 3 ans. Donc j'ai connu un passage dans l'industrie, passage étrange puisque j'étais censé y être à mi-temps. J'ai gardé et dirigé mon laboratoire à l'Institut Pasteur, ce qui veut dire à 200% du temps, quoi. Mais donc, entrepreneur, ça n'est pas la même chose, évidemment, dans le tissu industriel profond, comme peut-être une entreprise constituée ou dans une biotech qui démarre. C'est quand même pas du tout la même chose. Et donc, j'ai observé, en tout cas, et un peu vécu les deux aspects.
Si nous avançons dans le temps, on arrive en 2006 avec un institut de recherche qui est créé à Singapour, le Singapore Immunology Network, et vous en devenez le président. Alors, beaucoup de questions qui se bousculent. Qu'est-ce que cet institut de recherche et puis pourquoi à Singapour ?
Ce sont les hasards de la vie. Lorsque j'ai quitté la direction de l'Institut Pasteur, il m'a été demandé, et en fait l'incitation est venue d'un de nos prestigieux collègues, Sidney Banner, qui est prix Nobel de médecine, d'aller conseiller la manière dont on pourrait démarrer des opérations de recherche en immunologie à Singapour. Singapour, à l'époque, voulait et veut toujours développer énormément la recherche biologique et donc investissait énormément. J'ai fait une étude que j'ai ensuite livrée à Singapour et je précise que c'est une agence de l'État, c'est de l'argent public. Et ce projet a été accepté, puis ensuite on m'a demandé si je voulais le piloter, puis j'ai dit oui. C'est un peu comme ça que les choses se sont passées, donc vraiment plutôt par hasard. L'effort d'investissement, la volonté, le suivi des investissements de recherche à Singapour est évidemment impressionnant. même s'il faut reconnaître que c'est plus facile en phase de démarrage, enfin, ce qui était le cas à Singapour, qu'en phase de régime plus ou moins permanent, comme c'est le cas en France. Néanmoins, je crois que nous avons, nous les scientifiques et les communautés de chercheurs et d'enseignants en France, nous avons beaucoup à apprendre à regarder la manière dont on opère à l'étranger, avec des procédures qui sont parfois complètement différentes, sinon orthogonales par rapport aux nôtres, des mécanismes de décision qui sont, alors comme à Singapour, infiniment plus rapides et qui donnent des cinétiques de développement extrêmement impressionnantes. L'institut que j'ai créé, juste pour vous dire quelques chiffres, les bâtiments, donc le plan date de 2006, il a été accepté courant 2006, il n'y avait pas de locaux, on a attribué des locaux, il a fallu équiper les locaux. Les locaux ont été inaugurés fin 2007 et nous étions une trentaine à l'époque. Deux ans après, nous sommes 200 et on parle 20 langues dans cet institut, ce qui, au niveau des mécanismes de recrutement, vous indique que ces mécanismes sont à la fois efficaces et rapides.
Un institut donc international, hein, où il y a plusieurs nationalités qui se côtoient. Les mauvaises langues pourraient penser que vous détournez peut-être du système français pour un système plus facile à l'étranger en créant cet institut. Qu'est-ce que vous leur répondez ?
J'ai beaucoup travaillé sur la question de la recherche en France et avec quelques collègues, donc Jean-Marie Lane, Pierre-Louis Lyons, François Jacob et moi-même, nous avions publié un manifeste qui s'appelait « Du nerf ». En 2004, qui, je crois, donnait une opinion assez tranchée et constructive sur l'état de la recherche en France et les modifications qu'il faudrait y opérer. Cet institut à Singapour, si vous voulez, est conçu dans un modèle où, premièrement, les relations avec le Collège de France, des laboratoires français sont établies, où, deuxièmement, il y a des technologies qu'on développe à Singapour qui ne sont pas vraiment facilement accessibles en France, et donc ça ouvre des canaux. Et où il faut bien reconnaître aussi que la science est devenue tellement internationale qu'on ne connaît plus très bien les limites des frontières réellement. On est dans une période de la science, dans plusieurs secteurs de la biologie, où les ressources sont mutualisées mondialement. Par exemple, le séquençage des génomes est une opération qui est mondiale aujourd'hui. On ne peut pas vraiment dire que tel le séquençage du génome humain appartient tellement à un pays plutôt qu'à un autre. Même si, évidemment, des pays font des investissements beaucoup plus forts que d'autres, et en l'espèce, les États-Unis et les Anglais ont fait des investissements forts, mais les Français, avec le CEF, notamment le Généton, ont eu des apports absolument essentiels. Donc, si vous voulez, cette mondialisation fait que la notion d'appartenance est beaucoup moins forte, je crois, qu'avant.
On marque une deuxième pause, si vous voulez bien, Philippe Kourilski. Dans la troisième partie de cette émission, nous parlerons altruisme, comme j'ai pu l'avancer au début. A tout de suite.
"1989-2009, 20 ans qui bouleversèrent le monde de Berlin à Pékin. C'est le titre de l'ouvrage de Thierry de Montbrial, membre de l'Académie des sciences morales et politiques. Il dresse une analyse de l'évolution des relations internationales, 20 ans de transition pour comprendre les fondements du siècle qui s'ouvre. 1989-2009, 20 ans qui bouleversèrent le monde. De Berlin à Pékin, une émission éclairage à télécharger dès maintenant sur Canal Académie.
Suite de notre émission en habit vert, toujours en compagnie de Philippe Kourilski. Philippe Kourilski, le dernier ouvrage que vous venez de faire paraître chez Odile Jacob s'intitule « Le temps de l'altruisme », préface d'Amartya Sen, prix Nobel d'économie. L'altruisme est un terme qui vous est cher, c'est l'objet donc de cet essai. Est-ce que l'homme est foncièrement bon, selon vous, Philippe Kourilski ?
Je ne sais pas s'il est foncièrement bon, mais je suis certain qu'il n'est pas foncièrement mauvais. Et je pense que l'un des thèmes de cet ouvrage, je pense que l'usage de la raison est de nature, enfin est capable de perfectionner l'homme. J'en prends pour exemple le fait que lorsque nous, c'est vraiment ce que nous apprend la science, quand on travaille sur un phénomène ou sur un objet de science, c'est l'approfondissement de cet objet par la raison qui finit par nous révéler des dimensions que nous ignorions et qui parfois échappent totalement à notre intuition. L'exemple pour moi le plus évident étant celui de la mécanique quantique, qui n'est pas un segment de science vraiment intuitif et qui pourtant fonctionne parce que le raisonnement et la logique nous mènent de A à Z jusqu'à des expériences qui vérifient l'exactitude de l'édifice. Donc ma conviction est que l'approfondissement de la connaissance est de nature à élargir le contenu que nous donnons aux objets et que ce faisant, en élargissant ce contenu, nous nous équipons mieux pour traiter des problèmes éthiques. C'est ma conviction profonde.
Dans votre ouvrage, vous écrivez « Nous pouvons construire un système stable sur l'altruisme, mais pas sur la générosité ». Alors, quelle est la différence entre altruisme et générosité? Je vous pose la question, on y retrouve la réponse dans votre livre, mais je me permets de vous poser la question pour avoir un échantillon de réponse.
Oui, c'est un point très important. Dans ce livre, je passe un certain temps à définir précisément l'altruisme. Et ce n'est pas si simple parce qu'il existe presque une quinzaine de définitions différentes. Et j'ai ma propre définition et je pense qu'il est important de la rappeler. Et après, je pourrai vous décrire en quoi c'est radicalement différent de la générosité. Je fais référence largement à la théorie ou aux postures intellectuelles d'Amartya Sen. Amartya Sen distingue la liberté d'une part et les libertés individuelles d'autre part. Et ces distinctions, c'est un peu la distinction entre la théorie et la pratique, plus exactement, ou l'esprit idéaliste et l'esprit pragmatique, si vous voulez. En effet, je peux être un être complètement libre. Que signifie cette liberté si je ne peux pas acheter du pain? Et je peux que je ne puisse pas acheter du pain pour deux raisons. Soit j'ai pas l'argent, et donc j'ai une perte de liberté, soit il n'y a pas de boulangerie, ou il n'y a pas de pain dans les boulangeries, et il y a perte de liberté également. Donc, la liberté, c'est un grand principe, et les libertés individuelles, c'est quand même le dur rapport à la réalité. Par rapport à ça, si, comme je le crois très profondément, les libertés individuelles font partie de nos droits tout à fait fondamentaux, la question est de mettre en face, en regard de ce droit fondamental, de mettre quelque chose qui est de l'ordre du devoir ou de l'obligation. Et pour moi, ce devoir ou cette obligation, c'est l'altruisme. Et donc l'altruisme est une sorte de devoir qui est le complément nécessaire de nos libertés individuelles. Et donc plus nos libertés individuelles sont grandes et développées, ce qui est le cas dans nos pays riches, et plus nos devoirs d'altruisme sont, selon moi, importants, ce qui, évidemment, a des conséquences très évidentes, mais très pratiques, et notamment le fait que, si, pour prendre la lutte contre le réchauffement climatique, il ne fait absolument aucun doute que les pays développés, les États-Unis en tête et l'Europe en second, ont des obligations plus importantes que les pays en développement et les pays pauvres, évidemment. Alors, pour revenir à la question de la générosité, pour moi, fait partie de l'espace de nos libertés. Nous sommes libres d'être généreux ou non. En revanche, l'altruisme est un devoir, donc nous ne sommes pas du tout dans les mêmes catégories. Ce qui ne veut pas dire que altruisme et générosité ne sont pas complémentaires, ils le sont, mais j'estime que l'on ne peut pas fonder de système stable sur la générosité, alors qu'on peut fonder un système stable sur l'altruisme. Et je vais utiliser un exemple que j'utilise peut-être un peu trop souvent, mais qui est le suivant, quelque chose que j'ai appris de l'Institut Pasteur et de son réseau international, qui en fait a beaucoup guidé cette réflexion sur l'altruisme. Et l'exemple est le suivant. Il y a 10 ans, 700 ou 800 000 enfants par an mouraient de la rougeole et de ses complications, alors qu'il existe un vaccin qui coûte à peu près rien, qui est stable, qui marche, enfin bon, voilà. Et aujourd'hui, ça n'est plus que 200 ou 250 000. Donc un progrès colossal. Et bien sûr, j'espère qu'on arrivera rapidement à l'éradication ou du moins l'élimination de la maladie. OK. Comment est-ce que ça a été possible? C'est très simple, grâce à un effort de l'Organisation mondiale de la santé qui n'a été rendu possible lui-même que grâce à la Fondation Gates. Et donc, c'est merveilleux, c'est formidable. Et je pense que la Fondation Gates continue à faire un bien formidable. Mais la question que je pose est la suivante et qui est liée à la question de la stabilité du système, si vous voulez. Que se serait-il passé si Bill Gates s'était intéressé à la peinture plutôt qu'à la vaccination des enfants dans les pays pauvres?
Dans votre ouvrage, vous dites attention à la générosité, qu'elle ne soit pas un cache-misère.
Alors, ça pose effectivement la question, si vous voulez, de savoir en quoi la générosité est-elle possiblement instrumentalisée là où on manque d'altruisme. Et donc, oui, c'est une question qu'à mon sens, on peut poser. Et si la générosité est bien dans l'espace des libertés, on voit aussi qu'on rentre dans le... Peut-être, c'est un peu ambitieux, mais dans une discussion sur les théories politiques, puisqu'il y a évidemment plusieurs versions du libéralisme, mais dans les versions les plus extrêmes du libéralisme complètement dérégulé, évidemment, c'est la générosité qui prime, puisque les individus sont totalement libres de faire, etc., etc. Et la question, est-ce qu'on peut effectivement, de la sorte, bâtir un système stable ou non? Et je pense que non. Donc, d'où l'importance que je donne à la notion d'altruisme.
C'est la question que j'allais vous poser. Vous parliez donc de devoir d'altruisme. Mais c'est vrai que Si nous reprenons là les exemples qui sont sous nos yeux, notamment la crise économique, comment parler de devoir d'altruisme face à des pays qui se replient sur eux-mêmes sur un plan économique et qui, pour le coup, vont peut-être avoir un effort vis-à-vis des pays en voie de développement beaucoup moins élevé qu'ils ne l'étaient encore il y a 3 ans ?
C'est une excellente question et la réponse n'est pas simple, mais la situation peut devenir éventuellement dramatique. L'un des points de départ de ce travail, parce que c'est un travail, a été une question que je trouve vraiment brûlante. Nous avons à gérer le réchauffement climatique qui peut avoir des conséquences désastreuses et nous avons à gérer aussi quand même la lutte contre la pauvreté, les maladies infectieuses, etc. La question, est-ce qu'il y a assez d'argent pour faire tout ça ? La réponse est non. Alors bien sûr, c'est une réponse un peu rapide et l'évolution des systèmes économiques, on va passer à des économies vertes, etc., etc. Oui, on peut essayer de résoudre ça dans une certaine dynamique. Mais imaginons qu'il n'y ait pas assez d'argent. Comment on va arbitrer ? Est-ce qu'on, pour lutter contre le réchauffement climatique et donc gérer l'urgence de long terme, si j'ose dire, est-ce qu'on va ne plus avoir d'argent pour payer les antirétroviraux et avoir plus de gens qui meurent du sida ? Ça pose quand même un problème de morale extrêmement profond. Et donc face à ça, je suis convaincu que de mieux équiper notre boîte à outils intellectuelle et conceptuelle en y faisant rentrer la notion d'altruisme est quelque chose de possiblement utile, même si ça n'apporte pas de solution immédiate.
Vous parlez de morale. Avec l'altruisme se posent également des questions d'éthique. Je vais citer les quelques premières lignes d'un article paru dans le magazine Pour la Science, paru en 2004, le numéro 322 de ce magazine. Le titre « Vaccination quand l'éthique devient immorale ». Dans les pays occidentaux, l'escalade vers des règlements toujours plus sécuritaires, parfois édictés au nom du principe de précaution, entrave l'accès des pays pauvres aux vaccins et aux médicaments. L'éthique du Nord en arrive à sacrifier les malades du Sud.
Oui, c'était une réflexion qui suivait ce rapport qu'avec Mme Vinet, j'avais préparé pour le Premier ministre de l'époque,
M.
Jospin. Oui. Et si vous voulez, le suivi de cette réflexion amenait à s'interroger sur la question du poids des réglementations et notamment des réglementations de précaution, qui conduit à des surcoûts évidemment importants. De toute façon, les coûts de recherche et développement et d'innovation augmentent sans arrêt et aujourd'hui, on dit qu'en gros, pour développer un nouveau médicament, il faut 1 milliard d'euros. Alors, et bien sûr, si vous voulez développer une nouvelle molécule ou un nouveau vaccin pour un pays pauvre, il n'y a pas 1 milliard d'euros. Et ce n'est pas le marché qui va vous donner 1 milliard d'euros. Et dans ces conditions, je pense qu'il est légitime de s'interroger sur les paramètres qui conduisent au fait que ça coûte 1 milliard d'euros. Et je me demande, et je me demande toujours, cette réflexion date de 2004, mais je pense qu'elle est toujours actuelle et peut-être même de plus en plus actuelle, je me demande jusqu'à quel point le poids de la précaution, le poids de la réglementation pèse sur les coûts. Évidemment, ce n'est pas très populaire de dire ça et on a beau jeu de répondre « Oh là là, vous voulez sacrifier la sécurité, etc. » Ce n'est pas du tout l'idée. L'idée, c'est qu'on a peut-être dans des procédures qui sont imposées, qui sont considérées comme normales, on a peut-être des segments d'activité qui, en fait, ne renforcent pas la sécurité. Et dans ce cas, il vaudrait mieux s'obliger à les voir, à les mesurer, à les éliminer. De ce point de vue-là, d'ailleurs, je suis finalement convaincu que nous finirons par apprendre des pays pauvres comment faire moins cher dans les pays riches, puisqu'après tout, nos systèmes de sécurité sociale explosent.
Revenons à ce principe de précaution. Entre 1999, vous avez remis ce rapport, conjointement avec Geneviève Vinet, et puis aujourd'hui, où avec les multiples crises sanitaires, et notamment la grippe A, puisqu'on en parle beaucoup, on se demande si le principe de précaution n'est pas plus un blocage qu'autre chose. Quelle est-vous votre pensée ? Est-ce que justement, entre vous qui avez rédigé ce rapport et aujourd'hui, vous avez changé un peu d'idée ?
Écoutez, je n'ai pas fondamentalement changé d'idée, et je trouve que, contrairement à certaines de mes craintes de l'époque, c'est-à-dire d'il y a 10 ans, on ne s'est pas trop mal débrouillé. Il y avait effectivement le risque que le principe de précaution soit utilisé à tort ou de façon excessive de 2 manières. La première, c'est qu'il soit utilisé pour bloquer toute innovation. Et ça, c'était un risque vraiment, vraiment important. Et on voit que ça n'est pas le cas. Et notamment parce qu'il a été juridiquement et judiciairement encadré de façon tout à fait convenable. Deuxième chose, c'est que le principe de précaution ensuite renvoie dans l'espace politique au plus haut niveau, si vous voulez. Et la question de la gestion de la grippe H1N1 sur laquelle il y a eu polémique, me paraît excessive, enfin la polémique me paraît excessive. Que n'aurait-on dit si le virus avait été plus dangereux et si le gouvernement n'avait pas pris les mesures qu'il fallait ? La question de devoir vacciner 1 fois ou 2 fois était ouverte au moment où les décisions étaient prises. Donc la précaution a son coût, si vous voulez, mais évidemment l'appréciation du coût et son acceptabilité sont des questions strictement et profondément politiques. Et la seule chose que l'on peut dire, c'est qu'il faudrait peut-être qu'on en débatte plus pour essayer d'arriver à un consensus. Et quand on arrive à ce consensus, je reviens sur cette question, je pense que la conception que l'on a de l'autre, la conception d'altruisme est essentielle. Et j'en prends pour exemple la chose suivante. Quand on se vaccine contre la grippe H1N1, on ne fait pas que se protéger et protéger ses proches. On protège l'ensemble de la population parce qu'on sait très bien que si on vaccine à peu près 80% d'une population, on bloque la dissémination et la propagation du virus. Donc, à contrario, si on n'en joue pas ce jeu-là, évidemment, on n'est pas dans une logique cohérente et certainement pas dans une logique altruiste qui veut qu'on pense à l'autre et aux bénéfices pour la collectivité.
Là, c'est le pasteurien qui parle. Pour terminer cette émission, permettez-moi de vous citer, vous parlez de l'autre, des autres. Alors, je vais terminer par les derniers mots qui clôturent également votre essai. À une altermondialisation, il faudrait substituer une altrui-mondialisation et faire de notre planète une autre cité qui serait aussi la cité des autres. Merci Philippe Kourilski, je redonne le titre de votre essai « Le temps de l'altruisme » chez Odile Jacob, paru en 2009, et également d'autres ouvrages que vous avez publiés « Optimiser l'action de la France pour l'amélioration de la santé mondiale », la documentation française parue en 2007, et puis du bon usage du principe de précaution, on en parlait à l'instant, paru en 2001, toujours chez Odile Jacob, livre qui reprend le rapport remis au gouvernement en 1999. Merci Philippe Kourilski, et puis je l'espère à bientôt pour une prochaine émission.
Merci.